La suite de vos programmes, c'est après une page de publicité.
La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.
La culture, elle se conquiert, elle se transmet depuis 5 ans tous les mercredis sur Transistor. Elle se diffuse, elle se commente, elle vit, elle s'étale et elle s'écoute. Découvrez, riez, pleurez, chantez grâce aux grandes chroniques de Transistor qui explorent pour vous tous les champs de la culture, ancienne, nouvelle, future. La culture, tous les mercredis, c'est sur transistor.fr.
Marre de la routine, de l'ennui du quotidien ? L'ENS de Lyon est là. Venez passer une semaine de rêve, seul, en amoureux, ou même en famille, dans cet établissement luxueux, loin des tracas de la vie urbaine. Profitez des jardins magnifiquement aménagés du site Descartes, ou découvrez la faune sauvage de l'ENS, des moutons de soie aux chenilles processionnaires du pin de Mono, espèce protégée. Dégustez la cuisine du terroir de Gerland dans les deux restaurants mis à votre disposition ou risquez l'aventure au Subway de l'avenue de Bourg. Ménagez de purs moments de détente et de relaxation en écoutant les cours magistraux du début d'après-midi dans un amphithéâtre gradiné au fauteuil molletonné. Et pour les amateurs de sensations fortes, n'oubliez pas les laboratoires de Mono où les souches de maladies mortelles côtoient les lasers bricolés à la main.
Une seule adresse, www.enspa.fr. Vous aurez reconnu les voix de Nicolas, Florent, Clément et moi-même. Nous voici de retour pour le direct de Transistor. Alors on vient de vous parler de grec et sur Transistor nous avons une émission qui a tendance à toujours, toujours, toujours commencer par les Grecs.
Mais non, c'est un cliché.
Ah oui, c'est Il était une science, votre émission scientifique. Aujourd'hui, un numéro sur les nombres complexes. Et je vous laisse en compagnie de Pauline et Nicolas.
Merci Marie. Bonjour sur Transistor. Amis du jour, pour ce mercredi 25 février, Il était une science revient en live rien que pour vous. C'est le 10e numéro de notre émission. Joyeux anniversaire Pauline.
Joyeux anniversaire Nicolas.
Et nous allons vous parler de mathématiques. On vous a laissé sur votre faim lors du dernier numéro, mais nous avons choisi de vous parler des nombres, et pas n'importe lesquels, les nombres complexes.
Mais promis, on fera simple.
Il était une science.
C'est vrai que nous avons cette tendance dans Il était une science à en revenir toujours au grec, mais c'est que la dimension historique, l'histoire encore une fois, est extrêmement importante en science.
Trop d'histoire à Transistor.
Trop d'histoire à Transistor. Toujours est-il que c'est bien le cas en ce qui concerne les nombres et notamment la mise au point de ce qu'on appelle les ensembles de nombres. Il va donc falloir procéder méthodiquement et aller dans l'ordre et suivre finalement l'évolution des théories mathématiques ainsi que l'histoire des concepts en la matière. Cependant, à l'origine, on peut s'apercevoir que c'est quelque chose d'assez intuitif qui apparaît en ce qui concerne les nombres, à savoir les nombres entiers rationnels.
Naturels, tu veux dire.
Oui, oh là là, ça commence.
C'est l'après-midi en live.
Pourquoi faire simple quand on peut faire complexe,
voilà.
N'est-ce pas
Donc les nombres entiers naturels, c'est les nombres de la vie de tous les jours, donc qui étaient manipulés même avant les Grecs. Pour une fois, on remonte plus loin, puisque la méthode la plus ancestrale pour compter, c'est juste sur ses doigts, donc 1, 2, 3, 4, 5,
donc,
etc.
Donc 8 doigts.
Huit doigts, oui, bien sûr. Donc avec nos 10 doigts qui expliquent qu'on compte toujours en base 10, c'est-à-dire tu vas jusqu'au 10. À partir du 10, tu dois rajouter un chiffre pour écrire tes nombres. Voilà, ça a une raison vraiment
anthropologique, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, les nombres entiers naturels, on peut continuer à les calculer comme ça. Dans l'Antiquité, on utilisait aussi des cailloux.
D'où le terme calcul.
Voilà, exactement, hein, qui est en latin calculus, le caillou. Et donc, voilà, les nombres entiers naturels.
D'où les calculs rénaux, au passage, un peu de biologie.
Merci, Pauline. Les entiers naturels sont donc les nombres de base qu'on utilise pour le calcul. Et donc, ça forme la base de l'arithmétique, qui est l'étude de ces nombres. Voilà. Mais ensuite,
un système de notation, justement, tu parlais de la base 10,
oui.
Mais il en existe d'autres.
Oui, finalement, tu peux utiliser en informatique la base 2 avec des 0 et des 1. Après, par exemple, des civilisations comme les civilisations babyloniennes utilisaient la base 60 parce qu'ils se sont rendus compte que le 60 avait beaucoup de diviseurs et était très facile à utiliser. C'est pour ça, par exemple, qu'on a 60 minutes dans une heure. Tu peux prendre une demi-heure, un quart d'heure, un dixième d'heure, un vingtième d'heure, un cinquième d'heure, un douzième d'heure. Ça tombe toujours sur un nombre entier de minutes, c'est très pratique à découper.
D'accord. Donc on voit bien la visée pratique des nombres.
Voilà. Mais alors après, toujours dans la visée pratique et l'utilisation des maths, on va avoir besoin de résoudre des problèmes qui nécessitent l'utilisation d'autres nombres que les nombres entiers. Mm-hmm. Par exemple, bon, bah, si une pomme coûte 2 euros et que tu as 4 euros, tu peux acheter 2 pommes. Mais si tu as 5 euros, tu es obligé de couper une pomme en deux. En fait. Tu es obligé mm-hmm. d'introduire la fraction 1/2 ou 0,5, le concept de demi-unité, d'accord. qui n'est associé à aucun entier naturel.
Oui, tu veux dire, à la base, finalement, les nombres étaient un peu descriptifs. On a une, deux, trois pommes et voilà. Et on mobilisait ainsi des nombres.
Cailloux.
Et voilà. Et ensuite, on veut résoudre en fait des problèmes, des équations, pour
voilà.
utiliser un
alors,
terme un peu barbare.
Alors, les équations, c'est un concept beaucoup plus moderne.
D'accord.
Mais c'est vrai que la construction de nouveaux types de nombres, ça va passer par des résolutions d'équations.
En tout cas, de problèmes. Mais voilà, on voit déjà le passage à un caractère plus opératoire en fait, mmh, du nombre,
exactement.
Au-delà de l'aspect descriptif.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc voilà, donc ensuite on est obligé de passer aux fractions ou aux nombres décimaux. Mmh. Mais parmi les fractions, donc, si on en a quelques-unes comme 1/2 qui sont très faciles à manipuler, si on passe par exemple à 1/3, tu sais que c'est égal à 0,33333 à l'infini.
Oui.
Bon, nos auditeurs peuvent écouter notre numéro sur l'infini dans lequel on avait bien rigolé.
D'où aussi les limites du système de notation,
oui,
en chiffres,
voilà,
par
exactement.
Base 10.
C'est beaucoup plus simple de noter la fraction 1/3. C'est quelque chose de très simple. Juste besoin de deux entiers, 1 et 3, pour montrer le ratio en fait, mm-hmm. entre 1 et 3. Mais c'est beaucoup plus compliqué de représenter ça de manière décimale.
Oui, et l'importance de la fraction, elle permet quand même aussi le lien, encore une fois, avec la visée pratique, puisqu'on peut avoir plusieurs, il me semble, fractions pour un même résultat.
Oui,
en
voilà,
fait.
C'est ça.
Deux quarts,
donc, par exemple, voilà, 1/2, 2 quarts, c'est deux couples d'entiers naturels qui représentent en fait la même fraction. Mm. Et donc ça amène quelque chose de très intéressant, c'est que les fractions sont un ensemble de nombres qui ont une structure très particulière, qui est différente de celle des nombres entiers. Et donc c'est à partir de ça que les mathématiciens ont commencé à faire ce qu'on appelle de l'algèbre, c'est-à-dire vraiment étudier la structure d'un ensemble de nombres, et voir comment cette structure en fait dit des choses sur les nombres contenus dans cet ensemble. Et donc ensuite, on va continuer à devoir résoudre de nouveaux problèmes avec les entiers, avec les nombres en tout cas. Et donc, on va arriver à introduire des nombres relatifs.
Relatifs, d'accord.
C'est-à-dire que si tu fais une addition, donc on va rester avec nos pommes, tu as 2 pommes et tu en veux 4, donc tu écris l'équation 2 plus x égale 4.
Sans doute.
Et donc le x, tu vas devoir le chercher, c'est l'inconnu de ton équation. Ensuite, tu vas passer à une autre forme de problème. Si tu as 4 pommes et que tu en veux 2, c'est 4 moins x égale 2. Mmh. Donc tu introduis le signe moins pour enlever finalement une quantité. Mais ça préjuge en fait, tu sais par avance que tu vas ajouter ou enlever des pommes quand tu mets des plus et
oui,
des moins.
Bien sûr.
Et les mathématiciens vont chercher à généraliser tout ça et à résoudre toutes les équations du type, je sais pas, x plus y égale z. Mmh. Et là, tu sais pas.
Tu fonctionnes avec des inconnus et pas
voilà,
avec,
tu fonctionnes
des quantités
avec des inconnus.
Existantes,
mais, voilà, et surtout, tu sais pas si tu vas devoir ajouter ou retirer des quantités.
Oui.
Donc tu dois trouver un moyen de noter ça. Et donc les mathématiciens vont introduire des nombres négatifs qui ont été jusqu'à très tard considérés comme des simples artifices de calcul.
Et c'est à partir de quand qu'on commence à justement introduire des nombres négatifs
Finalement, dès l'Antiquité,
l'Antiquité,
commence à avoir ça.
D'accord.
Mais jusqu'à la Renaissance, on considère encore les nombres négatifs comme des nombres faux. C'est comme vraiment des artifices de calcul. Je t'explique, c'est si par exemple tu as 4 pommes et tu vas en obtenir 2, mais tu ne sais pas, tu ne veux pas préjuger du fait que tu en enlèves.
Mm-hmm.
Donc tu écris 4 plus x égale 2, ce qui est contre-intuitif. 4 plus x, tu ne peux rien rajouter à 4 pour donner 2,
oui.
Mais tu peux résoudre cette équation et trouver que x c'est égal à moins 2,
oui.
Un nombre négatif, donc qui n'a pas vraiment de réalité, qui ne correspond pas à quelque chose que tu peux retrouver dans la nature.
Oui.
Mais une fois arrivé à la dernière ligne, ton équation devient 4 moins 2 égale 2. Le moins, finalement, le signe de ce nombre devient
l'opérateur.
De ton équation. Donc finalement, tout s'arrange.
D'accord.
Bon voilà, et donc ensuite, on doit ajouter des nouvelles quantités, mais bon, ça à nouveau, dans l'Antiquité, on les connaissait déjà. On doit résoudre d'autres équations, comme par exemple x² égale 2. le nombre qui est mis au carré vaut 2, bah, c'est racine de 2. Et racine de 2, ce n'est pas une fraction, on peut le prouver. Ce n'est pas un nombre qu'on peut écrire avec une virgule et un nombre fini de chiffres après la virgule. Mais c'est un nombre qu'on trouve dans la nature. Si tu prends un carré de côté 1, sa diagonale est de longueur racine de 2. Donc, c'est des nombres qui étaient connus par les Grecs, qui étaient très particuliers, très bizarres, mais dont on a besoin pour dénombrer toutes les quantités qu'on peut avoir dans le monde.
D'accord. Oui, donc là, on voit bien vraiment le rapport avec l'existant, avec la référence à la réalité, à la manipulation finalement.
Voilà.
D'où le fait qu'on les appelle des nombres réels.
Voilà, c'est ça. Les nombres réels, c'est toutes les quantités qui existent, donc de 0 à l'infini, mais aussi les quantités correspondantes négatives. Les nombres réels représentent des quantités relatives.
D'accord.
Relatives par rapport au 0. Les réels positifs plus grands que 0 représentent des véritables quantités. Les négatifs représentent des quantités manquantes.
D'accord,
c'est tout ce qu'on va utiliser
en fait
pour les soustractions.
D'accord.
Entre les deux, il y a le zéro qui est l'absence de quantité.
D'accord. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que les nombres, ces nombres réels ou ces nombres relatifs suffisent dans les ensembles de nombres, justement ? Est-ce qu'ils nous permettent de résoudre tous les problèmes, toutes les équations ?
Justement, non. Si tu regardes l'équation x carré égale 1, les solutions sont 1 ou moins 1. Si tu mets un nombre négatif au carré, tu retrouves un nombre positif. Et du coup, là, il y a une question qui se pose, c'est si j'écris x carré égale moins 1, c'est absurde. Je ne peux pas trouver un nombre qui mis au carré vaut un nombre négatif, qui soit positif, négatif, n'importe quoi, ça ne marchera jamais.
Oui.
Le problème, c'est que parfois, donc, on aimerait bien pouvoir résoudre toutes ces équations avec des carrés, et x carré égale moins 1, on ne peut pas résoudre, il n'y a pas de solution. Et surtout, quand tu passes au degré 3, les mathématiciens ont commencé à la Renaissance à trouver des solutions ou trouver des méthodes pour résoudre ces équations. Mais ils avaient besoin de faire intervenir des racines carrées de nombres négatifs.
Oui, ce qui normalement nous apprend bêtement, il n'y a pas de...
C'est pas possible, c'est contre-intuitif complètement. Mais ils en avaient besoin dans leurs calculs intermédiaires, exactement comme les nombres relatifs. On en a besoin dans des calculs intermédiaires pour, à la fin, tomber sur une soustraction
Citer, créer l'organe.
Exactement. Et donc, c'est Descartes qui a introduit la notation i, le nombre qu'il a appelé imaginaire, ou
d'accord,
le nombre impossible
le terme...
également.
Oui.
Le nombre imaginaire, qui est le nombre qui, mis au carré, vaut moins 1.
Mm-hmm.
Et alors, ce nombre, il n'a absolument aucune existence réelle, naturelle. C'est donc pas un nombre réel, c'est le premier nombre imaginaire. Et à partir de ce nombre, on peut en construire d'autres en multipliant i par des réels.
D'accord.
Par exemple, si tu veux les racines carrées de moins 4, tu peux regarder 2i. 2i mis au carré, ça va faire 4 fois i au carré, ça fait moins 4. Moins 2i au carré, ça fait également moins 4. Et donc, tu peux résoudre, en introduisant ces nombres-là, toutes les équations du type x carré égale un nombre négatif. Puis ensuite, tu peux combiner, c'est-à-dire 1 et i, qui sont un nombre réel et un nombre imaginaire, tu peux créer 1 plus i, qui n'a pas non plus d'existence dans la nature, mais sur lequel tu peux faire des calculs, puisque tu peux ajouter des combinaisons comme ça, tu peux multiplier 1 plus i par i, tu peux faire des choses comme ça, et tu vas retomber sur d'autres combinaisons de nombres réels et imaginaires. Et donc on va inventer ce qu'on appelle les nombres complexes, qui sont des combinaisons comme ça de nombres réels et imaginaires, des additions, sachant que les nombres réels et les nombres imaginaires sont des cas particuliers de nombres complexes.
D'accord. Juste, je t'interromps rapidement parce qu'en fait, en potassant le sujet tout de même, je suis tombée sur une belle phrase de Leibniz à propos justement des nombres imaginaires. La nature, mère des éternelles vérités, ou plutôt l'esprit divin, est en effet trop jaloux de sa merveilleuse diversité pour permettre que toute chose soit condensée en un seul genre. C'est pourquoi il a trouvé un détour subtil et remarquable dans ce prodige de l'analyse, ce monstre du monde des idées, cette sorte d'amphibie entre l'être et le non-être que nous appelons racine imaginaire.
Voilà, je crois qu'il a écrit cette phrase pour Il était une science. Hein,
oui, je pense que très clairement.
Très modestement, je pense que c'est pour nous qu'il a écrit ça. Et donc, ces nombres complexes, en plus de nous permettre de résoudre des équations, comme tu dis, mais pour finalement, puisqu'on parle de la beauté et de l'harmonie de la nature, ces nombres complexes, ce qui est intéressant, tout comme les fractions tout à l'heure avaient une structure un peu particulière, les nombres complexes ont une structure très particulière qui les met en relation en fait avec les transformations géométriques dans le plan. Et donc, ça fait le lien entre l'arithmétique et la géométrie.
D'accord, dans un mouvement d'unification des deux aspects.
Et voilà. Et donc, les complexes, tu peux faire n'importe quelle équation avec des complexes, tu trouveras toujours des complexes. Mm-hmm. Donc là, normalement, on a fini le voyage vers la création d'ensembles plus grands. Mais les mathématiciens ont pu imaginer des ensembles plus grands qu'on appelle hyper complexes. Et donc, par exemple, on a les quaternions qui, au lieu correspondent à deux dimensions comme les complexes, qui correspondent à quatre dimensions. Et en fait, c'est très utile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, si tu vois les bras articulés dans les usines qui doivent pivoter sur des axes, en fait, ils sont programmés avec des quaternions qui en fait, permettent de représenter des rotations dans l'espace, tout comme les complexes représentent des transformations dans le plan.
D'accord. Donc en fait, il y a vraiment des liens entre géométrie et arithmétique.
Oui, c'est ça.
Et les nombres relatifs, ils étaient plutôt donc sur la ligne. On les place sur une ligne où il y a un zéro, alors que les nombres complexes et voilà, on va plutôt les placer dans le plan. C'est ça. Mmh. Et à l'horizon, il y a carrément le multidimensionnel avec les quaternions et les octonions.
Oui, voilà. Après, on peut continuer.
On peut continuer, d'accord. Et alors, justement, on évoquait ça tout à l'heure, la question des systèmes de notation. Et moi, je me posais la question, l'informatique qui tend à devenir une caractéristique universelle, pour reprendre le langage des philosophes ou une écriture, repose sur un système de notation binaire.
Voilà, c'est ça. Mais alors, le problème vraiment de l'informatique, c'est pas la notation binaire, parce que la notation binaire c'est juste une notation pour des nombres entiers. Justement, le problème c'est ça, c'est que les ordinateurs ne manipulent que des entiers. On peut leur expliquer comment manipuler ces entiers pour émuler le comportement de réel ou de complexe, on peut leur expliquer comment manipuler ces groupes de nombres et ils vont pouvoir faire des calculs pour nous aider. Mais bon, après, il y a des limitations, comme par exemple la précision d'un ordinateur après la virgule qui est toujours finie et qui peut ensuite poser des problèmes.
D'accord.
Malheureusement, chers auditeurs, vous ne pouvez pas voir en le studio les transistoriens en toge qui dansent sur Funky Town. Mais bon, c'est dommage.
Et oui, les sciences, c'est fun. Les maths aussi.
Et si j'ai réussi à te convaincre, Pauline, tout va bien.
Tout va bien. Et cependant, c'est aussi éminemment culturel, philosophique, spirituel. Hein, pour reprendre la phrase, pour se référer au sentiment de Leibniz, on voit bien que c'est toujours lié à des questions d'ordre spirituel et philosophique. Et justement, on peut s'arrêter peut-être sur certains des aspects ou des enjeux philosophiques et culturels de la question des ensembles de nombres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait, on en revient toujours aux Grecs. Bon, là, on en est même revenu avant les Grecs. Tout à fait. Donc, c'est aussi... alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'évolution linéaire de l'arithmétique, me semble-t-il. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des choses basiques de la vie courante, les nombres comme outils pratiques pour dénombrer, pour compter, pour quantifier. Et du coup, on s'est créé un ensemble de nombres de façon un peu intuitive, qui étaient les entiers, les entiers naturels. Et c'est progressivement seulement qu'on arrive à...
qu'on est passé vers l'abstraction, en fait.
Exactement. On complexifie.
Complexifie, c'est le cas de le dire.
Oui, voilà, c'est le cas de le dire. Donc on passe vers une abstraction grandissante. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça change le statut du nombre. Parce qu'à l'origine, il sert à... à décrire notre environnement, combien il y a de personnes, combien on achète de pommes, voilà. Comment ensuite on tend à faire des calculs qui permettent à terme d'en venir à une action sur le réel, puisque il y a une portée physique, une application physique par exemple. Voilà.
Et au début on fait vraiment de l'arithmétique, du comptage, et puis ensuite on passe à l'algèbre. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant les nombres que la structure de l'ensemble de nombres en fait auxquels ils appartiennent.
Et ce qui est intéressant également, c'est que peut-être dans la conscience disciplinaire qu'on a des mathématiques et qu'on nous ménage à l'école, en tout cas en France, on a tendance à vraiment cloisonner ou voilà faire un grand distinguo entre géométrie et arithmétique ou algèbre pendant longtemps. Et finalement, quand on reprend l'histoire un petit peu de l'évolution des théories sur les ensembles de nombres et de leur application à l'horizon, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement d'unification des mathématiques, puisqu'on a une géométrisation de l'algèbre et une algébrisation de la géométrie. Et peut-être y aurait-il intérêt à reprendre la constitution historique, donc en son aspect historique, des ensembles de nombres pour faciliter l'appropriation de la démarche scientifique et montrer aussi que ce sont pas deux, enfin que géométrie et algèbre ne sont pas deux aspects distincts et qu'il y a une forme de cohérence. Enfin, je sais pas, c'est la littéraire qui a...
Si les gens du ministère de l'Éducation nationale nous écoutent, on a un plan tout prêt pour eux, pour l'enseignement des maths.
Mais je crois qu'il y a, il y a aussi eu vraiment des théories scientifiques, enfin en tout cas épistémologiques sur la question de l'unification des mathématiques. Ça a intéressé,
et puis l'unification, c'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, en physique en particulier. La théorie du tout, c'est quelque chose qui fait rêver... Les théoriciens depuis 50 ans, mais bon, on n'est pas prêt d'y arriver.
Tout à fait. Et donc dans la question de l'abstraction grandissante et de la création on va dire la trouvaille des nombres complexes, on voit qu'il y a une distinction ici féconde entre ce qu'on appelle les nombres réels qui portent sur des choses existantes et les nombres imaginaires qui au contraire sont parfois même contre-intuitifs
qui sont finalement que des artifices de calcul au départ, et que c'est seulement ensuite qu'on leur trouve une utilité pour eux-mêmes.
Une utilité pour eux-mêmes et aussi une applicabilité quand ils sont réunis ensemble pour la robotique ou la mécanique. Et donc en fait, ça montre quoi ? Ça montre que les mathématiques s'appuient sur deux choses, à la fois le réel, les choses qui existent dans la nature, on a des choses à compter, on a des choses à dénombrer, et également l'intuition, mais aussi finalement une forme d'idéalité qui se fait à mesure qu'on a besoin de calcul pour résoudre des problèmes. Donc à quoi servent les mathématiques finalement, à la fois à quantifier mais aussi à calculer et à manipuler. Il me semblait que c'était important. Ça permettait aussi de restaurer la place de l'imagination en mathématiques, parce qu'on a tendance à dire les sciences c'est sérieux, ça porte sur des phénomènes existants, c'est les sciences du réel, et finalement les mathématiques sont toujours à cheval, j'ose dire.
Les mathématiques, c'est un peu le pan des sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, qui se rapproche le plus de la philosophie qui est le plus peut-être pas le plus littéraire, mais le plus abstrait finalement et le plus détaché de la nature finalement.
Oui. Et il me semble aussi qu'il y a l'importance des nombres complexes et la fécondité aussi du concept quand ensuite on procède à des calculs, parce que en physique elle va permettre également de peut-être anticiper ou prévoir des phénomènes que la nature ne nous aurait pas laissé voir de nous-mêmes. Je regardais un petit peu des choses sur internet à ce propos-là, et il était expliqué que par exemple, quand on fait des expériences concernant les empreintes digitales, les lois disponibles en physique, appelées les lois de Snell-Descartes, ne permettent pas d'expliquer qu'on voit l'empreinte digitale. Quand on modélise la lumière à l'aide des nombres complexes, il est possible de trouver des solutions pour les angles d'incidence au-delà de l'angle limite, et du coup en fait ça permet d'expliquer un certain nombre de choses sans le recours aux nombres complexes, on ne pourrait pas du tout expliquer. Et alors, finalement, également, ce qui m'a semblé intéressant là-dedans, c'est l'importance des nombres dans notre quotidien, qui passe de quelque chose, finalement, qui nous permet de décrire le monde, à quelque chose de pratique, un outil qui nous permet de quantifier, de mesurer, de dénombrer, à également, quelque chose de qui nous permet de nous projeter, d'être proactif un petit peu dans l'espace physique et de procéder à de la robotique, à de la mécanique, à des inventions physiques, etc. Donc,
ça peut s'appliquer aussi plus à nous, avec la médecine, avec la mesure de données quantitatives.
Mais
en fait,
j'ai vraiment l'importance du chiffre en tant que il informe et il structure notre quotidien finalement. On a l'impression qu'on est passé d'une civilisation de la lettre à une civilisation du chiffre.
Surtout avec l'influence de l'économie.
Et finalement, quand on repense à la question de la capacité d'imagination, à la question de l'importance du chiffre, certes pour lui-même, pour décrire, mais simplement pour manipuler le réel, on devrait veiller à davantage peut-être de spiritualité et d'éthique en tout cas dans la manipulation des chiffres. Voilà. Finalement, donc, ce qu'on peut dire pour conclure, on va essayer d'être un peu pédagogique, puisque allons-y, nous avons des velléités d'adresse à l'éducation nationale. De la quantification à la manipulation du réel, l'évolution des théories et des concepts mathématiques et l'abstraction grandissante des nombres et du calcul ont permis d'en venir à une action sur la réalité, à sa transformation, en produisant des opérateurs qu'on qualifiera donc de réel, d'imaginaire ou de combiné, c'est-à-dire complexe, qui sont propres à mimer et à reproduire la structure même de l'espace, aussi bien plane que multidimensionnelle, et à y inscrire du volume et du mouvement. Originellement outils descriptifs et pratiques, les nombres, réunis en des ensembles solidaires et articulés en des calculs féconds, nous rendent démiurges et proactifs. Mais plus que le chiffre, c'est bien le calcul qui fait la beauté du geste mathématique. Il est en effet la part vivante du chiffre, témoignage de sa gestation, tant il est vrai que le chiffre ne saurait avoir de sens que compris comme l'aboutissement d'une chaîne, le maillon d'une généalogie, la promesse d'une histoire. Les nombres nous permettent donc de compter et de mesurer, de créer et de maîtriser, mais laissons-les peut-être à leur place et veillons à ce que jamais ils ne nous définissent et nous qualifient, car en cet instant présent, mes 200 battements de cœur, mes 40 degrés de fièvre, en disent moins sur qui je suis que sur ce que ça fait d'être avec vous, chers auditeurs, en direct sur Transistor et en fin d'émission. Car oui, c'est déjà la fin, mais promis, Nicolas et moi reviendrons pour un prochain numéro. Vous pouvez compter sur nous.
Il était une science avec Pauline et Nicolas, à l'instant sur Transistor. Et si les maths, chers auditeurs, vous en redemandez encore, cette émission et toutes les autres seront podcastables à partir de demain sur notre site transistor.fr.